povo é quem mais ordena. Dentro de ti há cidade. Dentro de ti há cidade.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Un podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi bien sûr sur le site Spectre, spectremedia.org, sur lequel vous pouvez retrouver de nombreux podcasts passionnants. Je vous invite d'ailleurs à soutenir Spectre, un projet militant et un site entièrement gratuit, sans pub. N'hésitez pas à faire connaître le site, à diffuser les podcasts dans vos réseaux, parmi vos amis, vos camarades, vos collègues, et si vous le pouvez, à soutenir aussi financièrement ce projet. Dans ce podcast, comme vous le savez si vous l'écoutez régulièrement, on traite de beaucoup de choses, des différentes formes qu'a pu prendre le fascisme selon les époques et selon les pays, de résistance antifasciste, des liens qu'il peut y avoir entre fascisme et capitalisme, ou fascisme et colonialisme, mais aussi de la manière dont les extrêmes droites se développent actuellement, parfois jusqu'à parvenir au pouvoir, comme c'est le cas dans d'assez nombreux pays. De ce point de vue, j'ai cherché à rencontrer des chercheurs et des chercheuses, et je vais continuer à le faire, qui ont réalisé des enquêtes récentes sur l'extrême droite, ou qui ont croisé la question de l'extrême droite sur leur terrain d'enquête. Je pense en particulier aux épisodes avec Safia Dahani et Félicien Faury, qui ont travaillé spécifiquement sur l'extrême droite, ou encore Benoît Coquart et Violaine Girard, qui ont abordé cette question à partir de problématiques un peu différentes. L'idée de ces épisodes, c'est travailler et idéalement d'éclairer la question de l'ancrage électoral du Rassemblement national, donc les causes, les logiques et les raisons du vote en faveur de ce parti, mais aussi de l'implantation militante de l'extrême droite en France, ou encore de son mode de fonctionnement interne, de la manière dont on milite à l'extrême droite, etc. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Guillaume Letourneur, qui fait partie de cette nouvelle génération de chercheuses et de chercheurs qui travaillent sur l'extrême droite, en l'occurrence plutôt sur le Front National, devenu Rassemblement National, à travers une série d'enquêtes localisées sur des territoires spécifiques, en l'occurrence la Mayenne et Lyon. Guillaume est docteur en sciences politiques, il a soutenu sa thèse en 2020 et il est toujours associé au CESP, qui est le Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques. Il a co-dirigé avec Safia Dahani, avec Estelle Delaine et Félicien Faury l'excellent livre « Sociologie politique du Rassemblement national » aux presses du Septentrion, les éditions de l'Université de Lille. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors, donc je disais, tu as réalisé des enquêtes dans deux départements spécifiques et différents, la Mayenne et Lyon, des enquêtes entre 2014 et 2019. Est-ce que d'abord tu peux nous raconter ces enquêtes, comment tu as procédé, qu'est-ce que tu as fait sur ton terrain d'enquête, qui tu as suivi, quels étaient peut-être tes objectifs, et peut-être pour commencer, pourquoi la Mayenne, pourquoi Lyon, qu'est-ce que ça te permettait peut-être de travailler et peut-être de montrer?
Alors, j'ai commencé à enquêter en Mayenne à la fin de l'année 2013, quand j'étais en master, à un moment, donc 2013, où un an après la présidentielle de 2012, où Marine Le Pen fait un score important, elle succède à son père quelques temps auparavant à la tête du Front National, et donc il y avait un peu une interrogation sur les raisons de la montée du vote pour le Front National à l'époque en Mayenne, qui est un territoire situé dans le Grand Ouest de la France, historiquement plutôt rétif au vote à l'extrême droite, territoire plutôt de démocratie chrétienne, de droite modérée, disons. Donc je commence à enquêter dans ce département, et plus spécifiquement dans un petit territoire, petit par le nombre d'habitants, industriel et donc à dominante rurale, où en fait... il y a des scores importants pour le Rassemblement national, de plus en plus forts. Quand je vais un peu sur le terrain, dans des communes où Marine Le Pen fait des bons scores, je rencontre une châtelaine qui, chez elle, a accueilli un meeting, deux meetings même de Marine Le Pen dans son château, donc issu de l'aristocratie terrienne, mayennaise, bien implantée dans son canton, investie dans plusieurs assos, etc. Donc je décide un peu d'enquêter sur elle, de voir ses liens avec les habitants du territoire. Donc elle est un peu un relais officiel du parti, un relais formel. Et en même temps, je me rends compte, en enquêtant dans certaines communes de ce territoire, qu'il y a aussi des relais plus informels, davantage ancrés dans les classes populaires de ce territoire-là, qui vont aussi faire un travail de légitimation et de banalisation du FN. Donc en fait, voilà un peu comment ça démarre mon enquête. Hein. En Mayenne, je travaille voilà, comme ça à la fois sur les intermédiaires officiels et ceux plus officieux, moins connectés directement au parti. Donc ça, c'est pour la Mayenne. Et puis ensuite, au début de ma thèse, en 2014, je décide de comparer ce territoire-là avec Lyon, qui est un département situé en région Bourgogne, donc plutôt dans le nord-est de la France, où là, le FN est beaucoup plus puissant électoralement. Aujourd'hui, Lyon, c'est un département dont les trois députés sont élus au RN, affiliés au parti donc de Marine Le Pen, Jordan Bardella, donc avec une implantation plus forte. Et donc concrètement, pour mon enquête, je vais sur le terrain, dans les rassemblements militants qui se présentent dans ces deux départements-là, essayer de rencontrer des militants ou des candidats aux élections locales, donc notamment aux élections départementales de 2015, où je vais suivre un binôme de candidats dans Lyon. Pendant tout l'entre-deux-tours, je vais faire la tournée des bureaux de vote avec ces deux candidats qui voient plutôt d'un bon œil le fait qu'il y a un doctorant en sciences politiques qui les observe, qui potentiellement peut légitimer leur posture. Donc, ils me présentent comme le doctorant de la Sorbonne qui travaille sur eux. Donc, moi, j'accepte aussi de jouer ce jeu-là pour pouvoir enquêter sur eux. Et ça me permet comme ça de rencontrer d'autres militants, de voir un peu comment ça fonctionne de l'intérieur. À l'intérieur du parti, quelle est la stratégie, qui sont ces relais, ces candidats, etc. Donc ça, c'est pour la partie un peu enquête de terrain, observation. Je fais une quarantaine d'entretiens dans ma thèse, en Mayenne et dans Lyon. Et puis j'ai une partie un peu plus historique que j'ai réalisée à partir d'archives, des notes, des renseignements généraux, des années 80 que j'ai réussi à consulter sur dérogation aux archives départementales dans les deux territoires, ce qui permet de reconstituer assez précisément la trame historique, le tissu militant du parti à sa création dans les années 80 et essayer de repérer à la fois des continuités, des régularités dans son organisation, mais aussi éventuellement des évolutions.
Donc en fait, tu as travaillé sur des départements qui ne rentrent pas forcément dans le schéma un peu binaire qui oppose, on va dire, le vote RN et l'implantation du RN ou la stratégie d'une implantation du RN dans le bassin minier, par exemple, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui les Hauts-de-France, et le FN du Sud, on va dire la région PACA, etc. Bon. J'ai l'impression qu'il y a toute une construction qui est à la fois médiatique mais aussi scientifique autour de cette opposition un peu binaire. Est-ce que toi, tu la reprends? Est-ce que, à ton avis, il faut la nuancer? Est-ce que finalement, il y a plus de communs entre les deux du point de vue, par exemple, des électorats ou de la construction militante que ce qu'on pourrait imaginer avec une opposition aussi binaire d'un FN en gros plus ouvrier et peut-être plus militant dans le Nord, mais peut-être pas, et un FN du Sud plus notable dans le Sud. Quelle est ta vision de ça?
Oui, c'est vrai qu'il y a souvent cette opposition Nord-Sud qui est faite, et moi, du coup, je reprends un autre clivage un peu géographique qui est plutôt Est-Ouest, du coup, le Lyon dans l'Est, la Mayenne dans l'Ouest, qui me paraît aussi importante, significative du point de vue de l'implantation électorale et du coup militante et organisationnelle du parti, puisque dans l'Ouest, le RN a quand même des difficultés à s'implanter. Dans le cas de la Mayenne, on l'a vu aux dernières élections législatives, où il y a deux candidates qui ont été épinglées pour leur amateurisme. C'est là où on avait cette candidate qui, face à un journaliste, disait qu'elle avait un ophtalmo juif et un dentiste musulman. Donc là, on est vraiment sur une fédération qui est une terre de mission du RN et où le parti a fait des efforts, enfin, fait pas d'efforts du coup pour s'implanter, pour promouvoir des militants, etc. Alors que dans l'Est, dans toute une série de départements du nord-est de la France, dont Lyon fait partie, là, le parti, le RN, est beaucoup plus présent électoralement, mais aussi va parachuter des cadres pour conquérir des circonscriptions qui sont davantage à sa portée. Donc voilà, moi, avec ces deux fédérations-là, il y avait cette idée aussi de décaler un peu le regard par rapport aux bastions traditionnels qu'on regarde quand on étudie l'extrême droite, soit dans le sud ou dans le nord de la France, mais qui sont aussi assez particuliers parce que Hénin-Beaumont, c'est là où Marine Le Pen, qui est quand même la figure centrale du parti, va s'implanter. Perpignan, c'est Louis Alliot, c'est des cadres très médiatiques, emblématiques du parti. Donc ça donne aussi, à mon sens, une vision un peu en trompe-l'œil de ce qu'est le Front National ou le Rassemblement National. Et moi, dans ma démarche, c'était l'idée de regarder un Front National RN un peu plus ordinaire ou plus banal. C'est quoi le RN dans des territoires comme ça, la Mayenne et Lyon, quoi.
Et du point de vue des électorats, parce qu'on dit aussi assez souvent qu'en gros, il y a des motifs qui peuvent être plus socio-économiques dans le Nord et dans les classes populaires qui vont, les fractions des classes populaires qui vont être amenées à voter pour le Rassemblement National. Et on va dire assez souvent que dans le Sud ou dans des zones plus urbaines, ou je sais pas, l'Ouest parisien, où on a par exemple pas mal voté pour Zemmour, alors c'est pas le FN, mais c'est l'extrême droite, disons, on va avoir des motifs qui sont plus explicitement racistes, etc. Est-ce que ça, à ton avis, y compris sur tes terrains d'enquête, c'est quelque chose qui tient, ou finalement, est-ce qu'on retrouve quand même une sorte de communauté ou une sorte de ciment idéologique dans ces différents territoires? Moi, j'avais l'impression, d'après ce que, justement, dans l'épisode avec Félicien, on avait un peu abordé cette question, qu'il y avait peut-être moins de différence que ce qu'on imagine souvent entre un vote plus social et socio-économique, pouvoir d'achat dans le Nord versus lui, il avait travaillé sur le Sud, et en fait, ce qui s'exprimait, c'était souvent des choses qui, malgré tout, ressemblaient un peu à ce qu'on trouvait dans la sociologie des électeurs du RN dans le Nord.
Ouais, alors ce que je veux dire, c'est lié à la singularité de mes territoires, mais c'est des territoires qui sont historiquement ancrés à droite. Donc en fait, les électeurs sympathisants ou militants et responsables locaux du parti que j'ai interrogé, auprès de qui j'ai fait mon enquête, bah, clairement, ils viennent tous de la droite ou ils sont socialisés directement à l'extrême droite. Donc l'idée, pour le dire autrement, le discours social du Rassemblement National, dans mon enquête, je ne l'ai pas vraiment vu, voire pas du tout. J'ai plutôt affaire à des discours très libéraux contre l'assistanat, contre les assistés, contre l'État, les politiques redistributives, etc. quoi. Donc en tout cas, pour mes terrains, je n'ai pas cet ancrage social ou soi-disant de gauche concernant le RN, quoi.
Et le rapport, par exemple, aux Gilets jaunes, je ne sais pas si tu travaillais encore sur le terrain à ce moment-là, mais comment ça s'était manifesté sur ton ou tes terrains d'enquête ?
Alors, c'était la fin de mon enquête. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai une des candidates que j'ai suivies, dont je parlais tout à l'heure, aux élections départementales, qui en fait est rentrée en conflit au sein de la fédération, qui quitte le FN au cours de mon enquête, et elle se retrouve à prendre la parole dans des rassemblements de Gilets jaunes, donc fin 2018, début 2019, à Auxerre, dans Lyon, devant un nombre assez important de personnes. Donc elle va un peu recycler des savoir-faire politiques qu'elle avait acquis pendant sa campagne électorale, en remobilisant quelques thèmes que moi j'avais déjà observés en 2015, sur la question des radars par exemple, qui était très, très présent dans ses mots d'ordre, dans ses discours, quand elle allait voir les électeurs pour faire campagne. L'idée que, là je cite, le bon français qui travaille, il va systématiquement être verbalisé, sanctionné, alors qu'à côté, les délinquants sont dans l'impunité. Là, c'était vraiment ses termes pendant la campagne. Et donc, elle va reprendre un certain nombre de mots d'ordre avec la mobilisation des Gilets jaunes. Mais après, je ne l'ai pas suivi pendant le mouvement, et donc je ne sais pas si elle a poursuivi, je ne crois pas qu'elle soit devenue une figure importante du mouvement dans Lyon, quoi.
Et alors, comment caractériser ces territoires sur lesquels tu as enquêté dans le titre de ta thèse? Mais entre guillemets, tu parles de la France des oubliés, on a beaucoup parlé de la France périphérique, c'est une expression très contestée par des géographes, par des sociologues urbains, une expression de Christophe Guilly, un essayiste plutôt médiatique, mais qui a été aussi beaucoup repris et au PS, et à droite, et à l'extrême droite. Le RN le conseille dans ses listes de lecture à ses militants et à ses cadres. Tu le rappelles dans un de tes articles. Benoît Coquart, à l'opposé, parle plutôt des campagnes en déclin, de petits villages ou de bourgs qui étaient organisés autour d'une mono-industrie et qui, parfois, a périclité ou complètement disparu, ou plus ou moins complètement disparu. Les territoires sur lesquels toi, tu as enquêté, comment tu les caractériserais sociologiquement? Et par ailleurs, qu'est-ce que les acteurs locaux politiques, notamment, et notamment du RN, font de ces catégories, notamment la France périphérique? Est-ce que c'est quelque chose qui mobilise localement et comment?
Ouais, alors c'est des territoires qu'on peut qualifier de ruraux, semi-ruraux, en tout cas qui ont plutôt une faible densité de population, qui sont organisés autour de petites villes ou de villes moyennes, Laval, Auxerre ou Sens dans Lyon, qui ont des populations plus ouvrières, notamment en Mayenne. Je crois que c'est le deuxième département le plus ouvrier de France, contrairement à l'image qu'on a parfois des campagnes de l'Ouest. En fait, c'est des campagnes qui sont très industrielles et ouvrières. et Lyon dans une moindre mesure aussi, est industrielle et ouvrière.
Où on a l'impression que le déclin industriel est moins marqué que justement dans les territoires, par exemple, qu'a étudié Benoît Coquart.
Alors dans Lyon, il y a quand même un déclin industriel. Enfin, ouais, une industrie qui est aux mains notamment d'acteurs capitalistes internationaux, donc des industries qui vont être plus sensibles aussi au choc lié à la mondialisation. Et donc des petites villes, Saint-Florentin, Joigny, Tonnerre, qui sont à la fois en déclin économique, avec certains services publics qui vont disparaître dans ces communes, et aussi en perte de vitesse démographique, quoi. Bon, après, si on rentre un peu dans la géographie de Lyon, le nord de Lyon est très connecté à Paris, parce qu'on est assez proche en RER, donc il y a des dynamiques un peu spécifiques. Et donc, dans le titre de la thèse, je reprends la formule de France des oubliés, puisque c'est devenu un mot d'ordre assez important de Marine Le Pen quand elle prend la tête du Front National en 2011. Elle fait un tour de France des oubliés, elle va faire sa rentrée politique à Braché, dans une petite commune où elle réalise des scores très importants. Elle va être vraiment dans une logique spatiale, géographique, de conquête d'un électorat éloigné des grands centres urbains. Et donc, moi, dans la démarche, ça va être de voir comment concrètement le parti s'organise dans ce type de territoire-là. Elle a tout un discours sur redonner la parole au peuple. Et concrètement, comment ça se passe dans les fédérations du FN? Qui sont les militants qui s'engagent, ces candidats? Est-ce que c'est vraiment, véritablement, le peuple dont Marine Le Pen, Jordan Bardella parlent dans leur discours, quoi.
Il y a un de tes articles qui est intitulé « La banalisation du FN au village ». D'abord, peut-être pour commencer là-dessus, qu'est-ce qu'il faut entendre par banalisation? Qu'est-ce que ça veut dire pour un parti comme le RN d'être banalisé ou de connaître un processus de banalisation, concrètement?
Ouais, alors ce qu'on entend dans cet article par banalisation, c'est l'idée simplement que le fait de voter pour le RN, c'est devenu quelque chose de banal dans cette petite commune de à peine 500 habitants dans laquelle on enquête, où on va avoir, quand on va enquêter dans cette commune, des habitants qui revendiquent un vote RN ostentatoire, très clair, sans ambiguïté, et qui sont en même temps des figures locales importantes, très investies sur les scènes municipales, au sein du conseil municipal, associatives. Donc on étudie dans l'article une association de pêche qui est tenue par une de ces figures locales, petit artisan reconnu, chef d'entreprise, qui a un ancrage assez historique dans la commune, dans le sens où son père était aussi artisan, était aussi au conseil municipal. Et donc, c'est une figure locale qui va légitimer auprès, potentiellement, d'autres habitants, un vote pour le RN. Là où, quand j'ai interrogé, alors j'ai pas enquêté dans les années 90 ou 2000, mais quand on me décrit des personnes qui pouvaient être des soutiens du Front National, elles étaient souvent présentées comme des individus un peu isolés ou fantasques, qui n'étaient pas vraiment insérés dans la société locale. Là, on a le sentiment qu'il y a un changement avec des personnalités beaucoup plus légitimes et reconnues dans l'espace communal, quoi.
Et justement, dans cet article, toi et tes co-auteurs et co-autrices, donc Armel Cloteau, Pierre Rouxel et Julien Bourdet, vous dites ce passage par des acteurs localement reconnus, légitimes, localement, du fait de leur position sociale ou de leur ancrage de longue date dans la commune ou de leur participation au conseil municipal ou ce genre de choses ou à des associations, c'est d'autant plus efficace que les classes populaires précisément sont à distance du champ politique légitime et du champ partisan des partis, des organisations dans leur aspect plus formel, etc. Et que du coup, le fait que ça passe par des gens qui ne sont pas des militants à proprement parler, en gros, c'est encore mieux en quelque sorte pour le RN.
Oui, dans cette commune, dans ce territoire-là, les partis sont quand même relativement absents. On n'a pas de section locale, de militants très, très en vue. Donc là, le fait que ce soit une figure proche, mais aussi avec quand même une certaine respectabilité, assise sociale du fait de toutes ces caractéristiques, c'est quelqu'un qui habite dans le centre de la commune, qui a une maison bien visible avec une tour, un ensemble de facteurs qui viennent donner l'image d'un électeur du FN respectable, quoi.
Vous dites d'ailleurs dans cet article, ces intermédiaires informels, ça constitue une sorte de substitut en fait à une organisation partisane qui serait implantée en fait localement.
Oui, quand on a fait notre enquête là, c'était pendant l'élection présidentielle de 2017. Sur le marché de la ville centre, on a un militant qui vient distribuer des tracts, mais c'est quelqu'un qui est relativement extérieur au territoire, qui est pas très présent. Une des activités militantes principales aussi du territoire qu'on observe, c'est le collage d'affiches, mais c'est quelque chose qui est un mode de mobilisation très à distance. C'est-à-dire que quand les militants viennent coller des affiches, ils ne sont pas forcément en contact directement avec les électeurs et les électrices du territoire. C'est quelque chose qui se fait à distance. Ouais.
Oui, ils font ça en voiture, surtout à la campagne. Ils font des raids, en quelque sorte, dans les différentes communes. Ils sont en voiture, ils s'arrêtent là où il y a des panneaux et ils collent. Donc, ils ne sont pas au contact, effectivement, de la population localement. Ouais.
Dans les années 80, c'était presque une activité semi-clandestine. C'était fait la nuit, etc. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Ça m'est arrivé d'interroger des personnes qui collaient des affiches pour le RN. Mais voilà, il n'y a pas de figure partisane très implantée et reconnu, à la différence de ces figures qu'on qualifie pas d'officieuses, mais d'informelles, qui vont davantage jouer ce rôle de banalisation.
Mais d'une certaine manière, on pourrait se demander qu'est-ce qui fait qu'ils ne franchissent pas le pas. Y compris, c'est une difficulté pour le RN, peut-être, de ne pas avoir des militants au sens plus formel, c'est-à-dire des relais de l'organisation vraiment dans tous ces territoires où l'organisation fait de très bons scores. Qu'est-ce qui fait localement que ces gens qui sont des relais, qui sont parfois farouchement en faveur du RN, qui disent avoir voté toute leur vie pour le Front National depuis qu'ils votent, qu'est-ce qu'ils font qu'ils ne rentrent pas dans l'organisation ?
L'hypothèse qu'on fait dans l'article, c'est que c'est des réseaux de sociabilité, ceux du parti et ceux des figures informelles qui sont pas les mêmes, qui ne se superposent pas. En Mayenne, typiquement, le RN repose historiquement sur les milieux catholiques traditionnalistes qui ont un certain poids dans la fédération, sur ce que j'évoquais au début, une châtelaine, des réseaux de l'aristocratie terrienne, de la vieille noblesse, disons, pour reprendre la formule que j'ai retrouvée dans les notes des renseignements généraux, alors que les relais informels du parti sont davantage ancrés dans les classes populaires. C'est un artisan ébéniste qui est très investi dans une association de pêche où il côtoie des ouvriers des sites industriels de la commune proche qui travaillent dans des abattoirs ou dans des fromageries, qui ont des liens aussi avec certains agriculteurs du territoire. Donc il y a des alliances matrimoniales comme ça au sein de ces classes populaires, mais qui restent très éloignées finalement des réseaux partisans à proprement parler.
Donc ici, en fait, il y a quelque chose qui se joue en termes de classe, de distance de classe.
Oui, de distance de classe, ouais, je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'il n'y a pas de rencontre et qui fait que cet artisan ébéniste, par exemple, il n'est pas candidat. Et par ailleurs, dans son discours, il est très anti-système, anti-politique, donc il met aussi à distance en partie la politique légitime. Même si lui-même il est conseiller municipal, mais je le vois pas se présenter à des élections départementales ou législatives, surtout faute d'être accompagné par un parti politique, ce que ne fait pas le RN dans de nombreux territoires.
Peut-être justement, est-ce que, à partir de ton enquête par archive, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur la construction des appareils militants, en quelque sorte, dans ces deux départements que tu as étudiés ?
Oui. Alors, le Front National est créé en 72, mais les fédérations départementales, elles sont créées une dizaine d'années plus tard, quand le RN, le Front National à l'époque, commence à faire des scores électoraux importants. Et donc, c'est une démarche qui est très centralisée à l'origine. Hein. Ce que j'observe dans Lyon, par exemple, c'est que c'est le numéro 3 du parti, Michel Collineau, qui est un militant de l'extrême droite parisienne, très investi dans les réseaux parisiens d'extrême droite des années 60-70, qui va participer à des réunions locales pour créer une fédération un peu de toutes pièces. Donc il n'y a pas de maillage territorial de l'extrême droite préexistant dans de nombreux territoires. Et donc, c'est vraiment une démarche très centralisée autour de Jean-Marie Le Pen qui voit naître ces fédérations départementale.
Et est-ce qu'il y a des différences un peu sensibles justement entre les deux territoires de ce point de vue-là ? Par exemple, tu parles des milieux catholiques traditionnalistes donc qui sont, si j'ai bien compris, très présents en Mayenne. Est-ce que c'est le cas dans Lyon ? Est-ce que c'est encore différent ? Est-ce que c'est d'autres couches en quelque sorte ou d'autres souches de l'extrême droite ?
Je retrouve, et en lisant d'autres travaux hein, sur la création des fédérations, on retrouve régulièrement quand même des militants catholiques traditionnalistes qui se sont élevés contre le Concile de Vatican II, contre une modernisation de l'Église catholique dans les années 60. Donc c'est les confréries ou lefévristes qui vont créer à partir des années 70 des confréries dans de nombreux territoires hein, en France. Et donc ça va servir à différents endroits de cellules de base du parti. En Mayenne, c'est assez... assez marqué autour de quelques figures traditionnalistes. Dans Lyon, c'est le cas aussi. Dans les archives, je retrouve le rôle d'un notaire, lefévriste, qui va jouer un rôle important dans la structuration du parti dans ses premières années, quoi. Après, il y a des différences géographiques, régionales, territoriales entre les deux fédérations. En Mayenne, clairement, la noblesse, je retrouve beaucoup de militants avec des noms à particules, des propriétaires terriens, certains monarchistes, des militants proches de l'Action française aussi, ce qui est un peu moins le cas dans Lyon, quoi.
Et est-ce qu'il y a une évolution dans le temps notable entre justement cet appareil militant très ancré dans les notabilités, voire dans les noblesses locales, etc., et dans les années 80, 90 notamment, et plutôt catho intégriste, disons, ou catho traditionnaliste. Ouais. Et puis aujourd'hui, dans les années 2010, où il y a quand même eu, en tout cas de manière un peu ostentatoire de la part de Marine Le Pen, une sorte de rupture avec ces franges-là, disons, notamment au moment de la manif pour tous, même si on sait qu'elles sont toujours présentes au sein de l'organisation. Mais est-ce que toi, localement, tu vois une évolution sensible, ou est-ce que finalement, derrière ces changements, est-ce que c'est des changements strictement cosmétiques, ce que met en avant Marine Le Pen, ou est-ce qu'on voit des véritables changements ?
Il y a une stratégie de communication, je pense, parce que sur le terrain, pendant mon enquête, dans les deux départements, j'ai rencontré des militants catholiques traditionnalistes qui sont dans des logiques de combat politique, quelle que soit la direction du Front National. Pour reprendre une formule d'Alexandre Désé qui dit que le changement, les transformations partisanes sont chronophages, c'est-à-dire que ça prend du temps. Et comme il y a des liens historiques extrêmement forts entre les cathotradis et le Front National, Rassemblement National, on retrouve des militants qui appartiennent à cette sphère politico-religieuse qui reste très investie dans le parti. Et d'autant plus que ce que j'analyse dans un article, c'est qu'ils apportent, à mon avis, un capital militant dont ne dispose pas forcément le Front National RN dans ses autres viviers militants. C'est-à-dire qu'ils ont souvent, du fait de leur socialisation religieuse et politique, une certaine maîtrise du verbe, un certain capital culturel qui vont leur permettre d'accéder à des fonctions à responsabilité ou dans l'ombre des leaders départementaux qui vont leur permettre de rédiger des discours, d'écrire dans des blogs d'extrême droite, mais aussi de travailler comme ça d'être des figures publiques du Front National dans les territoires. Donc ils ont un certain nombre de compétences militantes qu'ils mettent au service du parti. Et qui, malgré le virage que Marine Le Pen a essayé de donner à son parti, qui reste quand même très investi. Et on le voit là sur la question, par exemple, de la constitutionnalisation de l'IVG, où il y a j'ai plus le chiffre en tête, mais plus d'une dizaine de députés du RN qui s'y étaient encore opposés, qui restent dans ces logiques très traditionnalistes, quoi.
Sur le fonctionnement de l'organisation, il y a justement, tu as parlé de l'hypercentralisation de l'organisation, c'est aussi quelque chose qu'on avait discuté avec Safia Dahani dans un autre épisode. Comment ça s'exprime au niveau local, justement, alors, tu as parlé de comment le parti avait créé des fédérations départementales, donc plutôt au début des années 80, si je comprends bien. Aujourd'hui, quelle est la manière dont la direction nationale intervient, y compris localement comment ça se manifeste concrètement ?
Ouais, alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant en étudiant la création, puis le développement, le déploiement même de ces fédérations, c'est de voir que la direction centrale, c'est-à-dire la présidence du Front National, Jean-Marie Le Pen puis Marine Le Pen, exerce toujours un contrôle très fort sur ces fédérations. Et concrètement, ça se traduit par une mainmise sur les finances du parti. Donc il y a un épisode que j'étudie dans mes recherches, dans ma thèse, sur la captation de l'héritage d'une pharmacienne dans Lyon, qui en fait commence à donner régulièrement de l'argent et des sommes assez importantes à Jean-Marie Le Pen dans les années 80, et puis de manière régulière elle le fait, jusqu'à le désigner comme son légataire universel. Et en fait, là, ça va créer une crise interne assez forte entre les responsables locaux du parti, qui sont devenus conseillers régionaux en 86 puis 92, et la direction du parti, incarnée par Jean-Marie Le Pen, pour savoir qui doit obtenir ces ressources financières. Et donc, il y a une partie des responsables locaux qui vont être vent debout contre cette direction qui s'accapare toutes les ressources financières et matérielles parce que vous devrez pouvoir développer localement leur parti, imprimer des documents, etc. quoi. Ce qui ne peut pas faire faute de ressources. Et donc ça, c'est quelque chose qui me paraît assez emblématique de la manière dont fonctionne le RN. C'est aussi toujours la direction centrale qui va... la présidence du parti qui va donner les investitures. Et donc, dans Lyon, ce que je vois régulièrement, c'est des parachutages de cadres parisiens.
Julien Odoul, par exemple.
Julien Odoul, pour le plus récent. Mais dans les années 90, j'ai l'exemple d'un ami de la fac de droit, Jean-Marie Le Pen, qui est envoyé précisément au moment où il y a cette affaire dite de l'héritage de la pharmacienne de Sens pour reprendre le contrôle de la fédération. Et ce qui me paraît important de dire, c'est que ça se fait parfois ou souvent au détriment de militants qui s'investissent sur le terrain et qui se retrouvent donc mis en concurrence avec des acteurs politiques qui sont à la fois mieux dotés socialement, qui ont plus de ressources scolaires, de capitaux culturels, etc., mais aussi qui ont cette proximité avec la direction centrale du parti qui fait qu'il n'y a pas vraiment de rivalité. Donc régulièrement, il y a un turnover chez les militants qui sont un peu déçus par ce mode de fonctionnement. Pendant les départementales de 2015, donc la candidate que j'ai suivie, qui a participé un peu aux mobilisations des Gilets jaunes, elle a été extrêmement déçue, choquée quand elle a découvert toute l'affaire des micro-partis et la façon dont le FN déployait ses kits de campagne auprès des candidats pour un enrichissement personnel des proches de Marine Le Pen. Elle avait l'impression d'être trahie par la direction du parti.
C'est l'histoire de la Good Connection, Axel Lousteau et autres.
Exactement, oui.
Qui ont facturé au RN, surfacturé des kits de campagne, c'est ça, hein.
Et donc les candidats sont, alors j'ai plus exactement les mécanismes financiers, mais sont amenés à signer des prêts d'honneur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle avait le sentiment d'être complètement dupée, trahie par un parti qui se présente comme étant anti-système, mais quand elle le découvre de l'intérieur, elle a le sentiment d'un parti qui est une entreprise économique. Donc voilà, il y a cette tension entre le centre et les fédérations et les périphéries qui est omniprésente et qui structure la présence du RN dans les territoires.
Et alors, est-ce que d'une certaine manière, ça ne tient pas grâce à quelque chose qu'avec Félicien Faury, dans un article, vous nommez la culture militaire de l'organisation, et qui est une manière pour vous, j'ai l'impression, d'aller plus loin que simplement regarder les règlements internes, les organigrammes, les règles de fonctionnement formalisées, on va dire, du parti, mais de se demander, d'une certaine manière, comment tout ça est reçu par les membres de l'appareil, des militants locaux, mais aussi des cadres intermédiaires de l'organisation, et qu'est-ce qu'ils projettent, eux, aussi, en termes de quelle est leur vision de ce que devrait être le fonctionnement d'une organisation comme le Front National ? Et vous mettez l'accent sur cette idée de culture militaire. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce qu'il en est ?
Alors, ce qu'on observe effectivement dans nos enquêtes de terrain avec Félicien Faury, c'est qu'il y avait souvent chez les militants soit un passage professionnel au sein des forces de l'ordre, donc avec la limite du devoir de réserve qui fait que c'est des personnes qui ne pouvaient pas s'investir, s'engager publiquement, mais dès qu'ils étaient en retraite, on avait souvent ce discours, cette trajectoire militante de « je me suis engagé au FN après avoir quitté la police ou l'armée ».
Forces de l'ordre au sens large, c'est des gens qui sont passés par des professions de la sécurité.
Oui.
C'est militaires, gendarmes, policiers.
Police,
quoi.
Ouais, c'est ça. ça. Et CRS, enfin, de manière large, voire de sécurité privée, et sachant qu'il y a parfois des militants qui sont d'abord passés par la police ou l'armée, puis on rejoint des organismes de sécurité privée. Ça... Et donc, soit des militants qui ont cette inscription professionnelle directe et qui rejoignent le Front National de manière assez, assez fluide, en fait.
Qui se moulent facilement dans un fonctionnement très hiérarchique et autoritaire, en fait.
Ouais, complètement, et qui retrouvent une partie de leurs semblables aussi au sein du parti.
Qui sont comme des poissons dans l'eau.
Exactement. En Mayenne, il y a un responsable départemental qui était aussi président d'une association de parachutistes qui lui permettait de recruter des candidats pour des colistiers pour des élections. Donc, et donc, dans les sociabilités... militante, il y a aussi du coup des échanges, une familiarité entre ses adhérents qui partagent des expériences professionnelles, y compris on retrouve les hiérarchies militaires au sein du parti ou ceux qui occupent un rang supérieur au sein des forces de l'ordre vont avoir une légitimité partisane importante. Il y avait un candidat dans Lyon qui était passé par Saint-Cyr et donc il était désigné comme le Saint-Cyrien et de manière très respectueuse par l'ensemble des candidats de la fédération. Et donc notre hypothèse avec Félicien, c'est de dire que cette culture militaire qui est très présente, ça va aussi façonner un certain rapport à l'organisation partisane, d'acceptation de la discipline partisane, d'une verticalité organisationnelle. On ne va pas trop ou assez peu discuter ce mode d'organisation. On s'en réfère au chef départemental ou national qui prend les décisions, qui donne les consignes, etc. Et c'était des éléments qu'on retrouvait assez régulièrement dans les entretiens, quoi.
Ouais, c'est ce que j'ai l'impression, c'est ce que tu dis, y compris par l'exemple contraire d'avant, d'une qui avait été choquée par les fonctionnements, une candidate qui avait été choquée par le fonctionnement. C'est en gros, j'ai l'impression que soit on fuit l'organisation, on part à défection, comme dirait Hirschman, soit on est loyal presque de manière aveugle à la direction centrale, qui en fait au FN, c'est pas une organisation tellement collective, c'est la présidence du parti, donc Marine Le Pen, aujourd'hui Bardella, mais en tout cas vraiment le noyau central. Mais en gros, on n'ouvre pas sa bouche, entre guillemets, on ne débat pas publiquement ou au sein du parti des orientations ou du mode de fonctionnement.
Non, il n'y a pas d'espace de démocratie interne véritablement au sein du parti, quoi. Tout est piloté, contrôlé. Il y a une monopolisation des ressources financières, je l'ai dit, et politiques au sein de la direction qui prend toutes les orientations politiques. Et il n'y a pas vraiment d'espace de débat interne, quoi.
Tu mets aussi l'accent sur les hiérarchies sociales au sein du parti. On a déjà un petit peu évoqué, mais est-ce que tu peux peut-être aussi développer à partir de tes terrains d'enquête ? C'est-à-dire que c'est un parti qui met beaucoup en avant depuis pas mal d'années qu'il est le parti des petits, des ouvriers, du peuple, on l'a dit, et qui en fait ce que montrent la plupart des enquêtes, mais j'ai l'impression que les tiennes montrent notamment ça, c'est à quel point justement il y a une monopolisation par des personnes qui ont plutôt des capitaux, si bien qu'en gros les membres des classes populaires qui intègrent l'organisation, ils sont pas forcément si nombreux au regard finalement de l'électorat du RN qui effectivement qui a une forte composante populaire, mais en tout cas ceux qui vont intégrer l'organisation vont pas forcément accéder, comme ça pouvait être le cas au PC d'il y a quelques décennies, où on essayait de faire monter de manière un peu volontariste les personnes qui étaient ouvriers, ouvrières, dans l'organisation, par aussi la formation politique, intellectuelle, etc. Là, il n'y a vraiment pas cette volonté-là, quoi.
Non, quand je regarde le profil des responsables locaux, départementaux du parti dans mes deux fédérations, mais plus largement, quand je croise ça avec d'autres enquêtes, ça revient assez systématiquement. On voit que c'est des individus, principalement des hommes, uniquement des hommes sur mes deux terrains d'enquête, qui sont diplômés, voire très diplômés. Si je reprends le profil des responsables départementaux dans Lyon, de 84 à 99, c'est un monsieur qui s'appelle Claude Moreau, qui est polytechnicien. Il est remplacé par, au moment de la scission de Bruno Maigret, par Édouard Ferrand, de 99 à 2015, qui lui va soutenir une thèse de sciences politiques à Paris 1 en 2007. Et en 2015, il est remplacé donc, par Julien Oudoul, qui lui avait fait des études, un master d'histoire dans une université parisienne, et qui était collaborateur d'élu à l'UDI avant de rejoindre le cabinet de Marine Le Pen. Donc on a des responsables départementaux qui sont surdiplômés, pas du tout à l'image en fait des populations, des territoires dans lesquels ils évoluent. Et du coup, il n'y a aucune volonté manifeste du parti de promouvoir ou de former des individus issus des classes populaires. Il n'y a pas d'espace, en tout cas moi j'en ai pas observé, de formation ou d'école du parti, comme tu disais, comme c'était le cas au sein du Parti communiste. On est sur avec le Front National, un parti classiquement de droite, d'extrême droite, très élitiste, où les ressources scolaires et professionnelles font qu'on monte dans la hiérarchie, quoi.
Et ça ne crée pas des formes de désajustement que tu aurais pu observer? Ou est-ce que finalement, ces désajustements, ils se marquent uniquement par le fait que les gens des classes populaires qui peuvent se retrouver dans les idées du RN ne vont pas intégrer l'organisation parce qu'ils ne l'aperçoivent pas comme quelque chose finalement qui serait étroitement ou organiquement lié à eux, à leurs intérêts, à leur manière d'être, etc. Ou est-ce que quand ils rentrent, finalement, ils finissent par sortir assez vite? Je crois que Raphaël Chalier, par exemple, met en évidence ce genre de choses.
C'est une logique de turnover assez important où... aux élections municipales notamment, il y a un besoin de colistiers importants, donc on va aller les responsables locaux. Là, je pense, dans Lyon, j'avais enquêté sur le cas de Joigny, qui est une petite ville de 10 000 habitants, où en 2014, la fédération départementale essaie de monter une liste. Donc, c'est un ancien inspecteur d'académie qui est passé par les mouvements villiéristes, représentant du parti de Villiers dans les années 2000, conseil régional, qui met en place une liste et qui va recruter des colistiers, notamment au sein des catégories populaires de la ville, auprès de colistiers que j'ai interrogés aussi, qui étaient sur le coup assez heureux, enthousiastes de pouvoir s'insérer, participer à des repas militants, être intégré dans un petit espace partisan et politique, mais qui en fait disparaît une fois l'élection passée. Donc il n'y a pas d'ancrage et de structuration dans la durée, à l'exception des responsables départementaux qui, eux, monopolisent les mandats, les postes, et donc font des carrières politiques, quoi. Ce qui n'est pas le cas de leur soutien ou de leur relais militant au sein des classes moyennes ou des classes populaires.
Mais ce qui peut parfois, d'un point de vue un peu extérieur, être étonnant, parce que par exemple, il y a eu cette polémique autour de Julien Oudoul qui avait ironisé sur les suicides des agriculteurs en se demandant, dans un enregistrement que je crois Libération avait rendu public, il disait « Est-ce que la corde est française, la corde avec laquelle ces agriculteurs sont... » parce qu'il y a des forts taux de suicide parmi les agriculteurs. Bon, ça ne bouscule pas, en quelque sorte, localement, les électorats de Julien Oudoul dans Lyon ou...
Cette captation audio, très précisément, je ne sais pas quel impact elle a sur les sympathisants, mais oui, il y a un certain nombre de militants que j'ai rencontrés au moment de mon enquête qui ne voyaient pas d'un bon œil l'arrivée d'un responsable parisien parachuté dans leur fédération, mais aussi parce qu'il y a des logiques de concurrence interne pour accéder au poste à responsabilité. Et comme lui, il était parachuté par la direction à un moment où la fédération était... avait des tensions assez importantes pour reprendre le contrôle de la fédération, il était assez mal vu par une partie des adhérents que j'avais rencontrés, quoi.
Alors, une question que je voulais te poser, c'est sur cette histoire du peuple et du rapport du RN du FN au peuple. En fait, d'une certaine manière, la question que je voulais te poser, c'est quelle est cette figure du peuple que le RN construit, en quelque sorte? Parce que j'ai l'impression qu'il y a notamment une vision très territorialisée. En fait, le peuple, c'est le peuple d'abord, le vrai peuple, c'est le peuple des campagnes, en quelque sorte, le peuple de la France périphérique. Est-ce que déjà... ce que je veux dire, c'est que c'est pas la vision que les organisations de gauche peuvent avoir en termes de classe et notamment de profession, ce qui fait qu'on va pouvoir intégrer dans le peuple des catégories qui foncièrement n'ont pas les mêmes intérêts de classe, mais qui seraient subalternes en quelque sorte ou dominées parce qu'ils appartiennent à la France périphérique en quelque sorte.
Le peuple, déjà, je pense qu'il y a une dimension ethnique hein, dans le peuple français. C'est les Français de souche, quoi, même si ce n'est pas dit comme ça dans les discours. Chez les militants, c'est ce qu'on peut entendre, donc pas les étrangers ou les immigrés. Le peuple que Marine Le Pen entend représenter...
Donc c'est un peuple ethno-racial, déjà.
Oui, je pense que...
On va partir un peuple blanc.
Ouais. Mais c'est pas dit comme ça officiellement dans les discours. Il y a aussi l'idée de peuple au sens citoyen ou démocratique, de renouveler des formes de démocratie directe, de pratiquer le référendum, donc de couper un peu les corps intermédiaires et de redonner une parole directe au peuple, ce qui va à l'encontre des pratiques internes qu'on observe quand on regarde le FN de l'intérieur. Et dans les discours, en tout cas, de Marine Le Pen, il y a eu peut-être un virage social aussi de représentation des classes populaires, mais qui ne correspond pas à ce qu'est le Front National dans sa composition sociale et militante, quoi.
Et au-delà même de la composition militante, c'est ce qu'on disait au début de cet entretien, c'est-à-dire que même les intermédiaires officieux non membres du parti qui sont des relais localement, quand je regardais les professions que tu annonçais dans tes articles, c'est souvent des petits indépendants en réalité. Et donc, on peut discuter sur... effectivement, la classe populaire est une catégorie qui est suffisamment plastique en quelque sorte pour qu'on y fasse rentrer des petits indépendants qui ne gagnent pas forcément très bien leur vie, mais dont certains peuvent gagner bien leur vie, des petits artisans notamment, mais aussi les ouvriers, ouvrières, les employés de commerce, les aides à domicile, etc., qui non seulement n'ont pas le même niveau de revenus, mais dont certains peuvent avoir intérêt à ce qu'il y ait moins de cotisations parce qu'ils ont des salariés, d'autres, au contraire, les salariés, évidemment, ont plutôt intérêt à ce que la sécurité sociale, par exemple, continue de fonctionner. Mais donc, le peuple du RN, j'ai l'impression que le groupe de référence au sein de ce peuple, c'est les petits indépendants. C'est celui qui vit pas d'un boulot salarié, en l'occurrence, mais qui a sa petite entreprise, quoi.
Ouais, c'est la figure de proue un peu du mouvement. C'est ce que mettent en avant les documents locaux du parti en consultant un peu une brochure locale qui s'appelait Le Patriote de Lyon. On voit dans les interviews qui sont présentées de militants, cette figure de petit indépendant qui travaille dans le bâtiment, qui s'est construit en dehors des circuits scolaires à force de persévérance et de travail. C'est vraiment ça la figure qui est mise en avant et valorisée au sein du parti plutôt que les classes populaires salariées, quoi. Et du coup, c'est aussi ce profil que j'ai retrouvé comme étant valorisé chez les adhérents que j'ai interrogé, quoi. Dans un chapitre d'ouvrage collectif, je développe le portrait je dépeins le portrait d'un entrepreneur agricole qui, lui, est très clairement ancré dans une droite ultra-libérale qui défend un modèle où on pourrait sortir du régime de la sécurité sociale. Enfin, un discours ultra-libéral assez classique et à l'image un peu de ce que j'ai entendu chez les adhérents du parti et ses responsables, quoi.
Avec, de manière assez centrale, et peut-être là encore, qui fait un espèce de ciment au-delà de la xénophobie anti-immigrée, du racisme, et aussi d'une certaine forme d'urbaphobie, c'est-à-dire de mise à distance de la ville, mais aussi pour des raisons en partie ethno-raciales. La ville, c'est l'endroit où il y a beaucoup d'immigrés, où il y a la promiscuité avec les minorités, etc. Mais dans les autres ciments un peu idéologiques, il y a la critique de l'assistanat, qui peut effectivement unifier des professions, enfin des petits indépendants pour qui la question du, enfin le travail, le fait est vraiment absolument central, mais aussi des professions ouvrières ou employées qui gagnent peu et qui voient d'un mauvais œil certaines personnes peut-être autour d'eux qui peuvent gagner pas très loin de ce qu'ils gagnent, mais en réalité souvent quand même nettement moins, tout en n'ayant pas d'emploi.
Oui, c'est ce que montrent notamment les travaux de Violaine Girard quand on s'intéresse un peu à la base électorale du parti, c'est d'avoir des fractions stables des classes populaires qui connaissent des petites ascensions sociales, résidentielles et professionnelles qui vont mettre à distance et l'assistanat et les immigrés, et qui vont avoir comme modèle un peu le modèle de l'indépendance professionnelle, et qu'on retrouve du coup aussi chez des adhérents du parti auprès de qui j'ai enquêté.
On insiste beaucoup, notamment dans les médias, les journalistes, y compris à travers la catégorie de populisme, sur l'aspect justement un peu anti-système du RN. Et le RN joue cette carte-là aussi, hein, en essayant par moment en tout cas de tenir des discours anti-système, voire critiques d'un certain ordre économique, mais notamment du mondialisme financier, etc. C'est un peu en général là-dessus qu'ils insistent. Et cette catégorie de populisme les met parfois amène les commentateurs parfois à les mélanger avec justement la gauche, voire la gauche radicale, comme menace par rapport à la démocratie. Toi, finalement, dans ton enquête, ce qu'on ressent en termes d'électorat, mais aussi d'appareil militant, c'est plutôt les liens avec la droite et le caractère très poreux entre droite et extrême droite, ou entre FN ou RN aujourd'hui et les droites plus traditionnelles.
Dans mon enquête, j'ai pas fait la logique, j'ai pas mis en avant la logique classificatoire de savoir si le FN était d'extrême droite ou de droite. Moi, je dis qu'il est d'extrême droite, mais c'était pas central dans ma recherche parce que je trouve que ça durcit un peu la frontière entre la droite et l'extrême droite et ça empêche de voir un certain nombre de porosités qui existent entre ces deux blocs, quoi. Et donc ça, tout au long de l'histoire des deux fédérations, je vois qu'il y a des liens étroits qui existent. Première visite de Jean-Marie Le Pen dans Lyon, dans les notes des renseignements généraux, je vois qu'il y a deux conseillers généraux qui sont membres de l'UDF et qui sont présents à cette réunion. Le premier responsable départemental dans Lyon, dont j'ai parlé tout à l'heure, polytechnicien, c'est aussi une figure du RPR, avant de rejoindre le Front National. Voilà, Jean-Pierre Soisson, le maire d'Auxerre, il est élu président de la région Bourgogne avec des voix du FN. Donc il y a comme ça régulièrement, on voit apparaître des liens plus ou moins dissimulés entre la droite, une partie de la droite locale et le Front National. Et ça se retrouve au niveau individuel aussi, chez des enquêtés qui peuvent voter à droite, pour la droite traditionnelle, mais aussi pour le Front National, en fonction des enjeux du scrutin, de l'offre politique, quoi. Donc c'est difficile de les classer à droite ou à l'extrême droite. Dans des réseaux de sociabilité comme ceux qu'on évoquait de l'association de pêche, c'est des électeurs de droite classiques qui côtoient des électeurs d'extrême droite. Donc voilà, il y a des liens qui existent sur le terrain entre la droite et l'extrême droite et qui sont... Enfin, il n'y a pas de lien entre la gauche et l'extrême droite. C'est plutôt un parti de la droite, en fait, quand on regarde localement ce qu'est le Front National dans l'appartenance sociale et politique de ses membres. Voilà où il se situe socialement et politiquement.
Oui, c'est vrai que les médias dominants aiment souvent mettre l'accent sur tel ou tel transfuge de la gauche parce qu'il y a un côté peut-être plus surprenant et ça dissimule en bonne partie le fait que des bataillons entiers issus de la droite, que ce soit l'UDF à une certaine époque ou le RPR ou le parti Dupont-Aignan dans la dernière période, par exemple Tanguy est issu un des dirigeants actuels les plus importants du RN et issu de la mouvance autour de Dupont-Aignan, sont issus de la droite, y compris du côté des électorats, que les grands déplacements qui se sont opérés dans les années 80, première percée du FN, et dans les années 2010, nouvelle percée 2010 et surtout 2020, je dirais, pour le RN, ce sont des électeurs qui avaient tendance à voter Sarkozy en 2007 ou 2012 et qui ont pu voter pour Fillon en 2020 ou Éric Zemmour. Éric Zemmour lui-même, d'une certaine manière, est issu de la droite traditionnelle.
Ouais, le cheminement politique est plus court et plus facile à faire en venant de la droite pour se rapprocher et rejoindre le FN ou le RN. Donc il y a toutes les organisations que tu cites. Et en plus, je rajouterai le CNIP aussi dans les années 80, le Centre National des Indépendants et Paysans, qui est un parti qui est créé dans les années 50.
Qui avait soutenu Poujade, je pense, non ?
C'est possible. Alors Poujade, il crée son mouvement, l'UDCA. Oui, mais il y avait sûrement des... Bah, je me demande si Jean-Marie Le Pen n'était pas lui-même membre du CNIP en tant que député dans les années 50.
On voit la cohérence par ailleurs avec ce groupe de référence, cette figure de référence que constituent les petits pour l'extrême droite depuis toujours, que constituent les petits indépendants, petits artisans, petits agriculteurs, ou professions libérales aussi.
Professions libérales aussi, ouais.
Les notaires, tu parlais d'un notaire, parfois des médecins, parfois des avocats.
Là, je pense en Mayenne, le premier responsable départemental, c'est un vétérinaire que j'ai retrouvé et avec qui j'ai fait un entretien assez long et qui incarne cette sensibilité professionnelle au sein du parti.
L'une des choses qu'on a parfois tendance à ne pas suffisamment, à mon avis, mettre en évidence, notamment dans le grand récit qui voit le RN arriver nécessairement au pouvoir, qui ne voit que les forces de cette organisation et qui parfois méconnaît un peu ses faiblesses, il y a justement la faiblesse de l'ancrage militant, de l'encadrement militant, de la capacité de recrutement et de formation des militants et de nouveaux cadres. En fait, ce qui fait que le RN et le FN est structurellement en déficit de cadres pour animer ces sections, ces fédérations, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes à partir de tes enquêtes ?
Alors, il y a effectivement soit aucune démarche volontariste ou proactive pour former des adhérents qui seraient issus du terrain pour les faire monter dans la hiérarchie partisane. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas observé d'espace de formation dans mes deux fédérations, ce qui fait que dans un certain nombre de circonscriptions, de territoires, notamment du nord-est de la France, le parti n'a quasiment pas d'existence et va parachuter des cadres parisiens en manque de ou en mal de territoire d'élection pour devenir député. J'en ai repris un certain nombre. Gaëtan Dussausset, il est parachuté dans les Vosges, c'est l'ancien président du FNJ. On a parlé tout à l'heure de Jean-Philippe Tanguy qui est élu dans la Somme, Alexandre Loubet en Moselle, Maxime Amblard qui est un ingénieur nucléaire dans la Meuse, Mathias Renault, un énarque dans la Somme. Donc on voit que dans des circos du nord-est de la France, le parti ne fait pas d'efforts spécifiques pour former et faire émerger des figures politiques locales qui seraient issues des catégories populaires ou moyennes de ces territoires, mais va parachuter des cadres nationaux. Donc ça, c'est un premier élément. Mais ce que j'ai vu aussi dans mes enquêtes, c'est que le parti frontiste, parfois, allait même à l'encontre des carrières ou des trajectoires ascensionnelles ou ascendantes de certains militants. Ça, je l'ai vu en Mayenne. Il y avait un monsieur qui est élu conseiller régional en 1992 qui va se voir retirer son investiture en 98 alors qu'il était rentré dans une logique de un peu de notabilisation. Il a écrit un livre sur lequel je m'appuie dans ma thèse où il explique comment il a été mis sur la touche, mais comment, à partir de son élection, il va essayer de devenir, enfin, il ne le dit pas comme ça, mais professionnel de la politique, au sens où il va délaisser son activité de gérant d'une auto-école pour se consacrer uniquement à la politique. Et en fait, il est rentré en concurrence avec le gendre de Jean-Marie Le Pen, qui était présent, lui, en Loire-Atlantique, dans la même région des Pays de la Loire. Et donc, ils sont tous les deux en concurrence dans cet espace régional. Et donc, il ne se voit pas renouveler son investiture en 98. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que le FN-RN fait toujours prévaloir les intérêts de ses dirigeants centraux et nationaux au détriment, souvent, de responsables locaux et venus d'en bas, entre guillemets.
C'est un peu la logique que Safia Dehani appelait patrimoniale, en fait. Tout ça procède, d'une certaine manière, du caractère patrimonial du parti, non ? Le fait que c'est aussi le patrimoine d'un petit noyau, voire d'une famille, pendant très longtemps, et encore jusqu'à aujourd'hui.
Ouais, il y a des logiques très fortes de loyauté ou de proximité avec la famille Le Pen qui vont déterminer les carrières au sein du Front National et dans les territoires pour l'obtention des investitures, quoi, très clairement.
Et alors peut-être pour avancer vers une conclusion de cet entretien, j'ai parlé d'une faiblesse de l'appareil militant, de l'encadrement militant, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de résultats électoraux, ça ne semble pas énormément les affaiblir. Au contraire, ils connaissent plutôt une progression, alors avec des paliers parfois, enfin, c'est pas une progression linéaire, hein, mais ils ont progressé par paliers, on va dire, dans les années 80, puis dans les années 2010, et encore même dans la dernière période. Est-ce que toi, sur tes deux terrains, est-ce que tu as vu malgré tout des moments où la machine s'enraye, ou des initiatives localement qui ont pu déstabiliser le Front National ou aujourd'hui le Rassemblement National? Est-ce que ça te semble être une mécanique bien huilée finalement et qui fonctionne bien et qui est vouée à fonctionner toujours mieux ou pas du tout?
Bah, électoralement, ça fonctionne. Il y a une montée régulière du niveau électoral, quasiment élection après élection, qui est à mon avis indiscutable. Ce qui pose des difficultés, c'est tout ce qu'on a évoqué sur la faiblesse de l'appareil militant, sur son incapacité à présenter des candidats compétents et crédibles. Et ça va finalement desservir le parti au niveau national. Dans l'exemple de la Mayenne, la candidate qui, face à un journaliste, met en avant le fait qu'elle ne serait pas raciste parce qu'elle a un ophtalmo juif et un dentiste musulman, c'est un défaut de formation, de préparation au débat politique, etc., quoi. Et ça, finalement, ça fait partie des éléments qui peuvent enrayer cette machine électorale du FN, quoi.
Mais alors ça pourrait d'une certaine manière être surmonté par eux s'ils arrivaient à mettre en place des structures de formation plus robustes. Quid de la gauche dans cette affaire, sur notamment tes deux terrains d'enquête? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle parvient à faire exister des idées de justice sociale, d'égalité, d'émancipation, etc.? Ou est-ce qu'elle est complètement, marginalisée?
Non, elle n'est pas tant marginalisée, notamment sur le terrain mayennais. Le FN fait quand même face à une concurrence politique assez rude. À gauche, il y a une figure politique locale qui est Guillaume Garot, qui est le député de sa circonscription, qui est très en vue sur la question des déserts médicaux dont on parle en ce moment. La proposition de loi pour la régulation de l'installation des médecins, c'est lui qui l'apporte. Donc, l'image d'un député au service de sa circonscription qui va être un concurrent très sérieux face au FN. Dans une autre circonscription du département, c'est une figure plutôt du centre-droit, Yannick Favennec, qui a été réélu dès le premier tour. Mais parce qu'il y a une tradition politique assez modérée, je dirais, dans ce territoire, qui fait que le RN a toujours des difficultés et fait pas véritablement d'efforts pour s'y implanter, quoi.
Et est-ce que cette gauche arrive à s'implanter d'un point de vue plus militant, y compris à avoir une présence dans des petites villes, voire une présence militante dans des vraiment très petites villes, des bourgs, etc.? Ou est-ce que ce que tu observes, c'est des espaces très dépolitisés dans lesquels les organisations n'ont absolument aucune présence
Non, c'est plutôt la deuxième hypothèse d'espaces politiques dépolitisés ou marqués par une présence de figures informelles d'extrême droite, quoi. C'est plutôt ça le schéma dominant, à l'exception de quelques communes qui vont donner des scores importants à Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Globalement, les petites communes rurales du département votent plutôt à l'extrême droite, et il y a une présence assez faible des organisations de gauche en tant que telles.
Et sans aucun équivalent, c'est-à-dire d'intermédiaires officieux qui seraient associés à la gauche, je ne sais pas moi, des professions peut-être plus associées au secteur public, des gens qui localement seraient reconnus par leur activité associative ou...
Oui, oui, il y a ça, il y a quelques communes. Là, je pense à la Mayenne, où il y a telle commune avec un bar associatif assez dynamique, une vie culturelle... qui va, par exemple, organiser une conférence sur l'islam pour casser les préjugés, ce genre de choses. Mais c'est une commune au milieu d'un océan bleu marine, quand on regarde les cartes, quoi. Ça reste très limité en nombre de voix et spatialement, quoi. C'est assez faible, quoi.
Est-ce que la clé du problème, du point de vue de la gauche dans son entier, enfin la gauche sociale et politique, disons aussi bien syndicale qu'associative ou partisane, est-ce que c'est pas ça justement, de ton point de vue d'enquêteur de terrain, cette espèce de présence sur le terrain qui s'agirait en quelque sorte de reconstruire progressivement pour défaire ce qui a été fait par le RN sous une forme un peu informelle, puisqu'il n'arrive pas à construire d'appareil militant à proprement parler, mais de défaire l'influence qu'ils peuvent avoir localement? La tentation, j'ai l'impression, est souvent de se dire, en gros, il faut qu'on ait le bon discours, il faut parler de ceci, il faut parler de cela, ok, très bien, mais finalement, en laissant de côté un peu la question qui a été quand même cruciale pour la gauche pendant un siècle et demi, quoi, en gros, des années 1830, 1840, début ouais. Du socialisme jusqu'aux années 70-80, qui était d'être implanté aussi parce que les grands appareils médiatiques donnent peu de publicité, en quelque sorte, aux positions de la gauche, quoi. Donc, s'il n'y a pas de présence localement ou...
Là-dessus, la gauche, elle est un peu divisée, parce que dans un territoire où les ouvriers sont quand même plutôt de droite, avoir des discours très marqués politiquement à gauche, ça prend pas forcément, quoi. Donc, il y a un peu ces débats-là internes à la gauche sur quel type de discours il faut tenir pour conquérir ce type de territoire, comment y être présent, est-ce que c'est par un discours antifasciste assez frontal ou en étant... sensible aux questions du quotidien sur ce que j'évoquais sur les déserts médicaux, sur la présence des services publics en milieu rural. C'est...
Ou les retraites. Une des choses qui avait été souvent notée là, au moment du mouvement sur la tête, c'était l'importance des manifestations dans des petites villes,
oui.
là où la présence, enfin, où le mouvement syndical est pas particulièrement fort. Ça montrait qu'il y avait sans doute un potentiel sur ces questions sociales, sur lesquelles le RN et un peu les retraites, c'est un peu une des seules questions sur lesquelles il a maintenu une sorte de vernis social, qui est un vernis qui a craquelé d'ailleurs juste avant les élections législatives anticipées. Mais
ouais, sur les retraites, il y a eu des mobilisations importantes de ce que j'ai vu, en tout cas à Laval, où il y avait une présence assez forte dans les rues. Et là, pour le coup, des organisations politiques et syndicales de gauche qui étaient présentes de manière unanime dans les cortèges, et pas du tout le RN, ça c'est évident. Ouais.
Mais donc voilà, peut-être que le déploiement de ces organisations dans d'autres territoires que les villes moyennes et grandes serait aussi une clé pour répondre justement au fait que le RN, de fait, est présent fortement, avec des variations selon les régions, mais dans les territoires plus ruraux et semi-ruraux.
Ouais, après moi j'ai un regard un peu plus pessimiste sur la chose, où ce que je vois c'est un peu la tendance décrite aussi par Benoît Coquart d'entre-soi, de milieux sociaux qu'on a décrits, de petits indépendants, d'ouvriers stabilisés qui vont parfois vers l'indépendance et qui sont très ancrés à droite ou à l'extrême droite, quoi. C'est pas en une élection que ça,
oui,
que ça se renverse, ou que c'est des dynamiques sociales et démographiques assez profondes,
lourdes. Merci beaucoup, Guillaume Letourneur.
Merci.
Je vous remercie de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Un podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi bien sûr sur le site Spectre, spectremedia.org, sur lequel vous pourrez retrouver aussi de très nombreux podcasts passionnants. Je vous invite par ailleurs à soutenir le projet Spectre, un projet militant, bénévole, un site entièrement gratuit, sans pub. N'hésitez pas à faire connaître ce site, à diffuser ces podcasts dans vos réseaux, et si vous le pouvez, à soutenir aussi financièrement ce projet. Merci beaucoup.
O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade. Spectre.